DW. Magazine Santé.
Normalement, pour ouvrir une pharmacie, il faut d'abord respecter les exigences, notamment au niveau personnel, au niveau du local, au niveau du matériel.
L'ouverture d'une pharmacie est un projet qui implique qu'un certain nombre de critères soient respectés. Dans ce magazine, nous irons au Burundi où les autorités tentent d'aider ce secteur qui fait face à d'énormes défis à se réorganiser. Mais avant, on parle de la solitude et de son impact sur la santé. Carole Assignon au micro, vous écoutez Capsule Santé. Bonjour à toutes et à tous. La solitude, quand on en parle, on ne pense pas tout de suite à l'Afrique. Les pays sur le continent sont en effet connus pour leur chaleur humaine, le vivre ensemble. Pourtant, la solitude est plus courante en Afrique qu'on l'imagine. Elle affecte tant les personnes âgées que les plus jeunes. La solitude est un problème majeur de santé publique. Pour en savoir un peu plus sur la solitude, Anna Carthaus du département des sciences de la Deutsche Welle a interrogé le docteur Sonia Kanekatoa Gbolo-Nwamesi, psychiatre à Lomé au Togo. C'était lors de son passage en Allemagne où elle a assisté à un symposium sur cette thématique.
On a l'impression qu'en Afrique, en général, qu'on ne peut pas vivre la solitude, ce qui n'est pas le cas. Déjà chez les sujets âgés, les personnes âgées, de plus en plus avec la migration urbaine et même internationale, on retrouve beaucoup de personnes âgées qui vivent seules, isolées, mais qui peuvent vivre même avec des personnes autour, mais en réalité vivent une solitude interne parce qu'elles n'ont pas vraiment des espaces d'échange vu que tout le monde autour d'eux court de gauche à droite pour subvenir à leurs propres besoins. Et même concernant les autres tranches de la population aussi, la solitude existe chez les personnes adultes comme chez les adolescents et enfants. C'est vrai, c'est pas forcément les mêmes causes qui les entraînent forcément, mais ça existe réellement. Et très souvent, c'est quand nous les voyons. Moi, à l'hôpital, par exemple, ayant eu déjà beaucoup de conséquences, beaucoup d'autres facteurs associés et rentrant dans la maladie que nous les voyons. Mais quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, il y avait eu une grande solitude difficilement vécue qui a aussi contribué à ce que la maladie survienne.
Tu vois des gens dans la psychiatrie, qu'est-ce qui te parle ?
En termes de solitude, en psychiatrie en général, ce sont les adolescents et les personnes âgées beaucoup plus qui parlent de la solitude en termes d'une émotion, de ressenti qu'ils ont et qui fait qu'ils se sentent vraiment isolés des autres dans un groupe. Ils ne se sentent pas connectés avec les autres, peut-être par leur différence ou par le fait qu'ils ne se retrouvent pas dans ce groupe-là, ils ne retrouvent pas des liens d'attachement par rapport aux autres personnes dans le groupe. Ça peut être du fait qu'il y a eu séparation côté familial, côté conjugal, qui fait qu'après, l'on n'arrive pas à se connecter avec les autres.
Parlons de la structure familiale qui a changé, de l'urbanisation. Quelles sont les mesures qui aident ?
Au Togo, par exemple, on a les maisons des jeunes. Ce sont des espaces où les jeunes peuvent se retrouver, où il y a des éléments de loisirs, il y a des éléments culturels, où les jeunes peuvent se retrouver, discuter, échanger, jouer ensemble. Le hic là, c'est qu'il faut quand même pouvoir avoir le moyen économique pour pouvoir rallier ces lieux. Et ça, je pense que c'est un challenge. Je pourrais dire qu'il y a aussi les espaces religieux. Socialement, on peut dire que c'est quand même aussi un espace vraiment de lien pour reconnecter les gens, pour reconnecter les familles, des associations qui se mettent en place aussi. On a aussi, au niveau de la santé, par exemple, on a des sorties récréatives thérapeutiques avec des groupes. On a quand même des brides d'études qui montrent que la solitude existe et c'est un facteur associé aux troubles de santé mentale quand même. De par l'expérience expérience que j'ai, on comprend beaucoup plus la solitude liée à l'isolement social, mais un peu moins une solitude malgré que les gens sont présents. Ça, c'est quand même encore l'élément à faire comprendre aux gens qu'on peut être entouré, on peut être avec 10 000 personnes, mais au fond de soi, on va se sentir seul.
Toi, tu es une de 7 psychiatres au Togo. Si on parle de la disponibilité de gens qui peuvent aider à la santé mentale, il n'y a pas une grande disponibilité.
Nous sommes 7 maintenant, répartis sur l'étendue du territoire, et nous avons quand même la chance, et aussi grâce au système vraiment pensé par mes chefs hiérarchiques, de pouvoir mettre tout en œuvre pour pouvoir décentraliser la santé mentale, que ça ne soit pas seulement les psychiatres. Du coup, nous avons aussi des corps de métier qu'on appelle les masters en santé mentale. Donc, ce sont des paramédicaux spécialisés en santé mentale. Et il y a aussi énormément de psychologues au Togo. Et même les travailleurs sociaux, ils sont outillés aussi pour les soins psychologiques de base. Et aussi, même nous sommes en train actuellement de complètement ramener en soins pour tout agent et même au niveau communautaire pour que tout le monde ait vraiment cette éducation en santé mentale. Du coup, il y a aussi, bien entendu, les associations qui ont toujours existé. Elles ne sont pas si nombreuses, mais elles sont là et elles font un grand boulot aux côtés des agents de santé spécialisés. Mais le travail reste encore énorme.
On le rappelle, la solitude peut avoir un impact grave sur la santé physique et mentale. Elle peut par exemple augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, de troubles de l'humeur comme la dépression, des troubles cognitifs comme la démence. Et pour traiter toutes ces pathologies, le médecin peut dans certains cas recommander des médicaments qu'on peut se procurer à la pharmacie. Comment fonctionne justement une pharmacie? C'est de cela dont on va parler à présent, direction le Burundi.
DW.
Faible production locale, dépendance aux importations, manque d'investissement, d'infrastructures, cadre réglementaire et institutionnel souvent inadapté ou encore flambée des prix et vente de médicaments frauduleux ou périmés. La liste des problèmes que rencontre le secteur pharmaceutique en Afrique est longue. Comme ailleurs sur le continent africain, au Burundi, ce secteur fait face à d'énormes défis. Le ministère de la Santé publique, en concertation avec les députés du pays, a décidé de prendre le taureau par les cornes pour redresser la situation. Le reportage d'Antéditeste Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
Selon la loi burundaise, la pharmacie doit être tenue par un pharmacien ou son assistant parce que dans la pharmacie, on dispense des médicaments et on doit respecter des normes bien précises pour que la santé de la population ne soit pas mise en danger.
Serge Alindogue est pharmacien, mais aussi président de l'Ordre des pharmaciens du Burundi. Il explique les conditions d'ouverture d'une pharmacie, l'approvisionnement en médicaments et tout ce qui tourne autour.
Normalement, pour ouvrir une pharmacie, il faut d'abord respecter les exigences, notamment au niveau personnel, au niveau du local, au niveau du matériel qu'on doit utiliser. Il faut réunir d'abord les conditions de travail et puis demander une autorisation au ministère de la Santé publique qui vient inspecter le local, le lieu où on va travailler et puis qui accorde une autorisation pour ouvrir l'officine au public. L'inspection va vérifier que le local est rempli des conditions exigées, notamment en ce qui concerne la température, l'aération, l'humidité.
Quelles sont les conditions d'approvisionnement?
Quand on a l'autorisation d'ouvrir, on commence l'approvisionnement auprès des pharmacies de gros et progressivement, on remplit sa pharmacie.
Au niveau de l'approvisionnement, qu'est-ce qu'on vous exige à la pharmacie de gros?
La pharmacie de gros ne vous exige rien. On suppose que quand vous allez vous approvisionner, vous avez une autorisation. S'il y a doute, on peut vous exiger une autorisation d'ouverture. Mais généralement, les gens qui vont s'approvisionner dans les pharmacies de gros, ils ont des autorisations d'ouverture.
L'autorisation d'ouverture, un point sensible. Il existe en effet des cas d'octroi frauduleux de certaines autorisations d'ouverture de pharmacie hors de tout cadre réglementaire. Une situation qui indigne Lidwine Baradahana, ministre burundaise de la Santé publique. Elle s'exprimait ainsi devant les députés lors d'une séance de questions orales.
Il y a des officines illégalement établies et d'autres qui servent du poison parce qu'on ne maîtrise pas leur circuit d'approvisionnement. Nous avons découvert une autre manière d'ouverture de pharmacie où on demande le renouvellement, mais d'une pharmacie qui n'existe pas réellement. Nous avons déjà identifié 100 pharmacies ouvertes dans un circuit parallèle. 2700 pharmacies doivent fermer, c'est un impératif. Nous avons également 4300 pharmacies privées que nous surveillons, sinon on devait avoir seulement 1400 pharmacies.
Selon le ministère de la Santé publique, le Burundi devrait avoir 1400 pharmacies, mais le pays compte autour de 7000 pharmacies. Et pour Serge Halindogo, seule la rigueur pourrait permettre de remettre de l'ordre.
Dans la loi, on exige qu'une pharmacie soit sous la responsabilité d'un pharmacien. Il y a d'autres agents sous sa responsabilité, comme par exemple des agents de santé, des techniciens de santé, des infirmiers et autres.
Des lois claires mais contournées s'alarment les professionnels du secteur. Les irrégularités expliquent les défis de fonctionnement des officines, implantation en désordre, personnel non qualifié, vente de médicaments parfois périmés ou sans prescription médicale. Preuve de relâchement quant au respect de la loi en matière de gestion des pharmacies, selon les analystes. Mais faut-il fermer ou accompagner les officines pointées pour régularité? Quand on interroge les habitants de Bujumbura comme Jean de Dieu, Eric et Martin, les avis divergent.
Il faut plutôt les accompagner pour qu'elles vendent des médicaments de qualité pour le bien de tous et suivre de près leur fonctionnement.
Beaucoup gèrent les pharmacies comme des commerces pour des intérêts propres au détriment de la santé publique. L'application de cette mesure pourrait être bénéfique.
Il faudrait plutôt sensibiliser le personnel des pharmacies pour qu'ils travaillent conformément à la loi les régissant.
Depuis l'année dernière, des pharmacies et écoles paramédicales privées sont pointées du doigt. La pharmacovigilance et la rigueur de la loi doivent s'imposer pour rétablir l'ordre dans le secteur et protéger la santé de la population. On t'a dit Stéphanie Aguila à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Une féerie ou simplement un reflet, une folie, une vision masquée.
Et vous l'aurez compris, nous arrivons à la fin de ce numéro de Capsule Santé. Merci à Anna Carterhaus et au docteur Sonia Kanikatoa-Golonoua-Messi pour l'interview sur la solitude et merci à vous pour l'écoute. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver sur nos différentes plateformes. Au revoir.
Dans l'entre-deux errer, vagabonder de l'autre côté, au-delà de la